Bienvenue dans Amphi 23. Bertrand Saint-Cernin de l'Académie des sciences morales et politiques, ancien recteur d'université, est aussi philosophe des sciences. Après avoir proposé une série de quatre grandes figures de la philosophie des sciences, il vous propose aussi une série sur les rapports entre l'homme et la nature. La première offre une réflexion sur nature et artifice. La deuxième s'intitule « Causalité et hasard ». Voici maintenant la troisième. Bertrand Saint-Cernin l'a intitulée « Biosphère et technosphère ». Toutes ces conférences de Bertrand Saint-Cernin sont enregistrées et disponibles sur Canal Académie.
Biosphère et technosphère. Le terme biosphère a été défini en 1926 par un savant russe, Vladimir Vernadsky, 1863-1945. Quant à celui de technosphère, il ne s'est pas encore vraiment imposé, certains auteurs lui préférant d'autres noms. Dans ce qui suit, nous entendons par biosphère l'ensemble du monde vivant, genre humain compris, ainsi que les supports inorganiques et organiques qui en conditionnent l'existence, et par technosphère, l'ensemble des actions techniques de l'humanité sur la nature. Le choix du singulier implique dans les deux cas que ces actions forment un système, qu'elles ont un principe d'unité. Ainsi, l'énoncé pose plusieurs problèmes. Premièrement, de quoi est faite l'unité supposée de la biosphère et de la technosphère? Deuxièmement, leur unité respective se constitue-t-elle par une histoire? Et si oui, laquelle? Troisièmement, quelles sont les interférences entre biosphère et technosphère qui influencent le destin de l'humanité? Analysons d'abord les termes, et d'abord le mot biosphère. C'est chez Aristote que l'on trouve la première analyse scientifique du monde vivant. Mais c'est l'idée d'évolution qui, au XIXe siècle, fournit le moyen de penser l'unité de la constitution et de l'histoire de l'ordre vivant. Il est donc tentant de rapprocher Aristote et Darwin, comme le fait Étienne Gilson dans un essai tonique « D'Aristote à Darwin et retour ». En 1830, eut lieu à l'Académie des sciences de Paris une controverse entre Georges Cuvier et Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, dont on trouve l'écho dans les conversations d'Eckermann avec Goethe. Le monde vivant résulte-t-il de créations organiques séparées ou d'un développement enchaîné des espèces? Le sagace Cournot, ami d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, le fils d'Étienne, tranche en faisant observer qu'il est plus rationnel d'imaginer que le monde vivant s'est fait par une évolution que par une suite de coups d'État. Le terme de biosphère est donc en partie lié à la théorie de l'évolution comme à l'hypothèse explicative de son unité de constitution. Mais de 1859, date de la publication par Darwin de l'origine des espèces, à 1926, où Vernadsky publie la biosphère, des événements scientifiques majeurs se produisent et depuis lors, des révolutions théoriques et pratiques ont modifié le contenu du terme sans toutefois modifier l'hypothèse fondamentale qui en légitime l'usage, à savoir l'unité du monde vivant. Vernadsky, minéralogiste de formation et élève de Mendeleïev, oppose la stabilité géochimique du globe et l'évolution des êtres vivants. Il écrit, je cite, « D'ailleurs, au cours des siècles, les formes de l'énergie auxquelles sont liées la vie, la radiation du soleil et probablement l'énergie atomique des matières radioactives ne se sont pas modifiées dans leurs grandes lignes. » Il poursuit « Cette immutabilité qui caractérise tous les processus cosmiques au cours des temps géologiques offre un contraste frappant avec les modifications profondes subies dans le même temps par les formes vitales étudiées par la biologie. » Fin de citation. Voyons maintenant la signification du mot technosphère. Pour que l'usage du mot sphère soit applicable à la technique, il faut justifier l'hypothèse selon laquelle le monde technique manifeste comme l'ordre vivant un principe d'unité. Or, un cuvier de la technique pourrait soutenir, sans être contredit, que chaque société humaine, chaque société animale crée ses techniques de façon indépendante, et un Geoffroy Saint-Hilaire de la technique serait embarrassé pour faire reconnaître dans le monde des techniques un principe d'unité. Pourtant, depuis le milieu du XXe siècle, la mondialisation de l'économie rend plus évident le caractère réticulé du monde technique. Toutefois, des interrogations restent ouvertes. De quoi est faite l'unité de la technosphère? Cette unité est-elle fixe ou en devenir? Ce devenir est-il gouvernable par l'homme ou échappe-t-il à l'humanité? Enfin, est-ce dans la technosphère que se joue notre destin? Dans ce qui suit, nous faisons l'hypothèse que le monde des techniques présente une unité interne, même si le principe de cette unité est difficile à mettre en évidence. D'où s'ensuivent les questions qu'implique l'énoncé du sujet. Quelles relations entretiennent biosphère et technosphère? Leurs rapports sont-ils intelligibles? Sont-ils placés sous le contrôle de la raison humaine, ou risquent-ils de suivre une marche autonome à laquelle les hommes prêtent la main sans pourtant la conduire? Examinons donc les relations entre biosphère et technosphère. Une première hypothèse serait que les conduites animales sont préformées par l'instinct et les conduites humaines apprises au sein d'institutions. Les comportements animaux seraient caractéristiques de l'espèce, les comportements humains variables selon les sociétés. Cette dichotomie était enseignée dans les universités françaises il y a un demi-siècle. Pourtant, des observateurs attentifs du monde animal avaient noté au XIXe siècle que chez certaines espèces d'oiseaux au moins, les petits apprennent à chanter. On savait depuis des siècles qu'il y a des techniques animales, mais on les croyait innées, ce qui ne semble pas être la règle. Cela étant, les techniques animales sont en gros caractéristiques de l'espèce, même si elles s'adaptent au changement des milieux. Ainsi, certains oiseaux de mer ont appris à se nourrir dans les poubelles plutôt que de pêcher en mer. D'une manière générale, dans l'Antiquité et jusqu'à une époque relativement moderne, peut-être jusqu'au XVIIe siècle, on ne trace pas une frontière tranchée entre intelligence animale et intelligence humaine. Même si l'on souligne leurs différences, on suppose de l'une à l'autre de la continuité. Montaigne s'amuse à raconter l'histoire d'un renard de Thrace qui, lorsqu'il s'avance sur un fleuve gelé, sonde à l'oreille l'épaisseur de la glace, servant ainsi de guide aux habitants. Si l'ordre physico-chimique et l'ordre vivant étaient saturés, il n'y aurait pas de place pour la technique, signe de l'inventivité humaine. Le premier à avoir pris clairement conscience que la nature n'était pas saturée et qu'ainsi une technosphère se constituait, c'est Cournot. Il exprime une inquiétude spéculative. Comment le réseau de puissance artificielle en cours de mondialisation va-t-il s'insérer dans le système de la nature? L'homme est-il en train de créer une contre-nature, un monde d'artifice inassimilable par la nature? En 1861, dans le traité de l'enchaînement des idées fondamentales dans les sciences et dans l'histoire, il écrit, je cite, « De là le désaccord et la singularité d'un être qui appartient à la nature vivante et que la nature a muni de facultés susceptibles de se développer, dans certaines circonstances exceptionnelles, d'une manière anormale, contrairement au plan suivi par elle pour tous les êtres vivants, de telle sorte que cet être si étrange puisse se croire parfois le maître ou le rival de la nature elle-même. Tel est l'homme. » Fin de citation. Cournot comprend que s'il se prend pour le maître de la nature, l'homme risque d'y faire des ravages, d'où en 1872, dans les « Considérations sur la marche des idées et des événements dans les temps modernes », cette déclaration, je cite, « De roi de la création qu'il était ou qu'il croyait être, l'homme est monté ou descendu, comme il plaira de l'entendre, au rôle de concessionnaire d'une planète. » Cournot est conscient du changement de la relation entre l'homme et la nature. Je le cite. « Il avait à faire valoir un domaine, il a une mine à exploiter. Et ces quelques mots suffisent pour indiquer sous quelle face nouvelle vont désormais se présenter les plus graves problèmes de l'économie sociale ainsi que les conditions de la vie historique des peuples. » Fin de citation. Cournot pressent le risque d'un emploi massif de richesses naturelles qui ont pris tant de milliers de siècles à se constituer et que l'activité industrieuse dévore si rapidement aujourd'hui. Bref, l'humanité entre dans un nouvel âge de la technique. C'est aussi à cette date, en 1859, que Darwin publie « L'origine des espèces » où il établit que, dans le monde vivant aussi, sous l'effet de la sélection naturelle, émergent au cours du temps des espèces plus nombreuses et plus complexes, signe que la nature vivante, elle aussi, n'est pas non plus saturée. D'où, à partir de là, un problème qui se pose toujours à nous, y a-t-il un ajustement possible entre la technique et la nature? Les modes d'action de la technique sont-ils des artifices étrangers à la nature ou sont-ils dérivés d'elle? Quel est le destin de l'homme entre nature et technique? Pour répondre à ces questions, il faut essayer de distinguer les âges de la technique. Cournot décèle un changement profond que les autres historiens après lui confirment. Au milieu du XIXe siècle, la technique acquiert plusieurs traits nouveaux. Premièrement, elle commence à devenir de la science appliquée. Deuxièmement, ses effets sur la nature sont dans certains cas irréversibles et nocif. Troisièmement, à des actions techniques séparées, caractérisant des petites sociétés sans contact entre elles, se substitue un réseau global réticulé. Si l'on en reste à l'époque moderne, on peut donc en gros distinguer la période antérieure au milieu du XIXe siècle, les années 1850-1950, et à partir du milieu du XXe siècle, s'ouvre une nouvelle période dont la date inaugurale se situerait, d'après Catherine Chevalet, les 17 et 18 novembre 1953, où devant l'Académie bavaroise des Beaux-Arts à Munich, Heisenberg, puis le lendemain, Heidegger, s'exprime à propos de la technique. Je cite Catherine Chevalet. C'est en effet à ce moment et à cette occasion que la question philosophique de la technique change de statut, qu'on cesse, on et Heisenberg en particulier, de s'interroger sur la technique comme science appliquée et comme bonne ou mauvaise application d'une science unilatéralement bonne, pour s'interroger sur la technique comme processus planétaire autonome, ni bon ni mauvais, mais susceptible de présenter un danger qu'il faut reconnaître. Fin de citation. Si des philosophes privilégient les analyses de Heidegger sur le monde de l'outillage, le Gestell, ce nouvel âge est surtout marqué par une suite de découvertes considérables dans le domaine biologique et médical. À partir de 1953, on commence à trouver des réponses à la question posée en 1944 par Erwin Schrödinger, « What is life ?» Qu'est-ce que la vie ? En particulier, les biotechnologies se développent, la biologie de synthèse prend corps, l'action humaine sur la nature s'approfondit et s'étend. En 1958, dans un livre remarquable intitulé « Du mode d'existence des objets techniques », Gilbert Simondon clarifie la nature de cette action et son développement. Il distingue objet technique et ensemble technique. Le premier, mobile et circonscrit, passe aisément d'un groupe humain à un autre. Le second, complexe et enraciné, a un tout autre mode de développement. Je le cite. Par là, dans la mesure où une technologie polytechnique remplace des techniques séparées, les réalités techniques elles-mêmes prennent une structure de réseau. Elles sont en rapport les unes avec les autres, au lieu de se suffire à elles-mêmes, comme les travaux d'artisans, et elles sont en rapport avec le monde qu'elles enserrent dans des mailles de leurs points clés. Les outils sont libres et abstraits, transportable partout et toujours, mais les ensembles techniques sont de véritables réseaux rattachés au monde naturel. Un barrage ne peut être construit n'importe où, non plus qu'un four solaire. Ces systèmes ont plusieurs caractères inédits. Premièrement, leur temporalité propre s'étend sur plusieurs générations, et dans certains cas, ils laissent des traces pour des millénaires, comme les déchets nucléaires. Deuxièmement, étant polytechniques, leur constitution, leur entretien et, quand il le faut, leur démantèlement exigent la coopération de différents métiers. Or, si l'on en croit Platon, aucun individu ne maîtrise parfaitement plus d'un métier, ni, ajouterait-on aujourd'hui, plus d'une théorie scientifique. Troisièmement, la rationalité intrinsèque de ces ensembles ne va donc pas de soi, ni non plus, il ne va pas de soi qu'ils soient gouvernables par la raison. la tradition chrétienne, religieuse ou laïcisée, ne voit pas de problème au fait que la responsabilité humaine s'étende sur plusieurs générations, puisque, selon les pères cappadociens, quand il est dit dans la Genèse que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il ne s'agit pas, selon Grégoire de Nyssa, un père du IVe siècle, de l'individu, mais de l'humanité passée, présente et à venir. La communauté éthique de Kant s'inspire de cette idée religieuse de la communion des saints. Ce n'est donc pas difficile pour Karl Otto Appel de conférer à la communauté éthique kantienne une dimension historique. Le problème devient plus ardu quand cette référence religieuse disparaît. Jean-Pierre Changeux estime pourtant que sur les bases de la neurophysiologie, on peut légitimer le souci des générations futures. Pour ma part, je pense que la croyance dans la communion des saints, même laïcisée, est un argument plus solide pour légitimer le souci des générations futures qu'une neurophysiologie d'inspiration kantienne. Que l'on cherche à donner aux entreprises techniques complexes de la rationalité instrumentale, c'est évident. Que ces entreprises polytechniques possèdent en outre une rationalité axiologique, c'est moins sûr. D'où deux problèmes. Comment instiller la rationalité instrumentale? Comment conférer la rationalité axiologique? Examinons d'abord les modes de la rationalité instrumentale. On peut distinguer en gros deux modes de réalisation de la rationalité instrumentale, par imitation et par rupture. En 1909, dans le 89e de ses 101 propos, Alain évoque, je le cite, « les barques pontées sur lesquels les Bretons de l'île de Groix vont à la grosse pêche. Il note « Observez l'abeille ou le pêcheur, vous ne trouverez pas trace de raisonnement ni de géométrie. Vous y trouverez un attachement stupide à la coutume qui suffit pourtant à expliquer ce progrès et cette perfection dans les œuvres. Tout bateau est copié sur un autre bateau. Toute leur science s'arrête là, copier ce qui est, faire ce que l'on a toujours fait. » Fin de citation. Alain propose alors de raisonner à la manière de Darwin, je le cite, « Il est clair qu'un bateau, très mal fait, s'en ira par le fond après une ou deux campagnes et ainsi il ne sera jamais copié. On copiera justement les vieilles coques qui ont résisté à tout. On peut donc dire en toute rigueur que c'est la mer qui façonne les bateaux, choisit ce qui convienne et détruit les autres. » Fin de citation. Alain, qui connaît sans doute les lois de l'imitation de Gabriel de Tarde, en fournit ici une illustration éclairante. Mais est-ce le mode d'innovation majeur des systèmes polytechniques? Que se passe-t-il quand une veine technique est épuisée ou que les techniques disponibles ne permettent pas de résoudre un problème économique majeur? Quand on saura mieux stocker l'électricité, les débats sur les centrales nucléaires s'apaiseront, on tirera parti de l'énergie nucléaire produite par le soleil sans avoir à l'imiter sur Terre. Quand et sous quelle forme une telle invention se produira-t-elle? Qui trouvera la solution? Comment s'opérera la rupture? Nous l'ignorons, mais nous sentons l'importance qu'aurait une innovation de ce genre. Dans ce secteur, on invente par imitation, comme les pêcheurs de l'île de Groix, mais on doute que cela suffise et que Tarde ait raison. En revanche, on n'aperçoit pas encore où se fera la percée décisive qui rendra l'électricité stockable comme le charbon ou le pétrole. Examinons si les relations entre biosphère et technosphère sont gouvernables. La technosphère est faite d'artifices acceptables par la nature. La technosphère n'est pas une création moderne. Elle prend une première forme systématique à l'époque néolithique, quand des sociétés humaines se mettent à substituer à la cueillette et à la chasse, l'agriculture et l'élevage. Comme l'écrit Jean-Pierre Séris en 1994 dans son livre « La technique », je cite, « L'artificiel, comme plus que nature, comme surnature, ne rompt pas avec la raison, la technique réforme en la reformant la simple nature. » Il poursuit. Il n'est pas moins naturel à l'horloge de marquer les heures qu'à l'arbre de produire ses fruits, lesquels d'ailleurs sont artificiels aussi, si ce sont des Louises bonnes, des passes crassantes, des Williams ou des Comis. Il poursuit, la technique individualise des types par retranchement de l'accessoire, du bruit, du brouillage, elle dénoue les fils embrouillés, elle retient l'essentiel, le garantit des accidents, le débarrasse des scories. Fin de citation. Selon l'auteur, la technique est plus vraie que nature. Les adversaires de certaines technologies objectent que le transfert de gènes d'une variété ou plus encore d'une espèce à une autre, ce qu'on appelle la transgénèse, n'est pas naturelle et doit être proscrite. Telle est la position des anti-OGM. Cette opposition au transfert de gènes a deux raisons possibles, l'une empirique partant du constat du caractère nuisible pour la santé ou l'environnement de telle transgénèse, l'autre, idéologique, invoquant les droits de la nature à n'être pas perturbés par l'action humaine. À la seconde position, on ne peut répondre que par d'autres arguments idéologiques, ce que nous ne ferons pas. Tenons-nous-en à la première argumentation. Comme on ne connaît pas entièrement les processus naturels, la seule conduite raisonnable est de comparer, sur le plan nutritionnel et environnemental, l'agriculture utilisant uniquement les engrais chimiques et l'agriculture combinant interventions chimiques et biologiques. Il faut choisir la moins nocive et la moins polluante. Étrangement, cette méthode pragmatique est peu pratiquée en Europe, qui pour le moment préfère l'affrontement idéologique, laissant du même coup l'innovation à d'autres. Le problème est donc comment faire entrer la technologie dans la sphère politique. La difficulté à laquelle se heurtent les États depuis l'avènement du nucléaire, c'est de faire entrer la technique dans le champ politique. Qui sont les médiateurs entre le pouvoir politique et le pouvoir technologique? Les experts, dont l'autorité est aujourd'hui contestée. Sans eux, cependant, les responsables politiques et l'opinion publique communiquent mal. Le cas des OGM en Europe en est l'illustration, mais cet exemple n'est pas isolé. Chaque fois qu'un nouveau système technique émerge, il suscite la méfiance, ne serait-ce que parce qu'il apparaît comme plus dangereux à ses débuts que les techniques qu'il détrône. Il en fut ainsi du chemin de fer, du bateau à vapeur, de l'automobile et de l'avion. On trouve dans le domaine de l'alimentation, de la médecine, de l'éducation, du vote, des exemples analogues. Y a-t-il à cet égard un dépassement des analyses de Platon ? J'en doute. On se retrouve aujourd'hui comme autrefois devant la difficulté qu'ont les hommes à entendre la voix de la raison, à pénétrer les secrets de la nature, à relier par des conjectures théoriques fiables parce que le Ménon 98A appelle un lien de causalité les savoirs circonscrits que l'expérience leur apporte, faute de quoi, telles les statues de Dédale, les opinions vraies partent chacune de son côté, comme le dit Platon dans le Ménon 97D. À ces difficultés que la raison classique a sondées, s'ajoute aujourd'hui celle qui résulte de la fragmentation du savoir. Si le même individu ne peut plus intérioriser les sciences de la nature, ni même une seule théorie complexe, comment assurer la rationalité d'une œuvre issue d'un travail collectif ? À quelles conditions l'intersubjectivité garantit-elle l'objectivité ? Enfin, à supposer que l'objectivité soit atteinte et que la rationalité instrumentale d'un projet prenne consistance, comment établir que le succès technique aura aussi une valeur axiologique ? En conclusion, il y a deux types de stratégies possibles pour l'action politique. Une approche globale et planétaire ou une approche circonscrite et locale. La première est plus satisfaisante sur le plan spéculatif et idéologique. La seconde est en général plus efficace car elle s'ajuste mieux à la limitation des moyens de l'agent. Aujourd'hui, se présentent des problèmes globaux et planétaires comme l'évolution du climat, l'alimentation d'une population mondiale qui va croître probablement de 2 milliards dans les 40 prochaines années, la santé, la démographie, etc., qui, pour être convenablement traités, demandent des moyens que les agents politiques n'ont pas. Les systèmes technologiques et économiques, en s'étendant à notre globe, exigent une évolution de l'ordre politique nécessaire pour que nous devenions, selon les mots de Cournot, que je répète ici, de bons concessionnaires d'une planète.